Briquet à la houppe d'Amélie Nothomb.
Enceinte à 48 ans pour la première fois, Enide attendait l'accouchement comme d'autres la roulette russe. Elle se réjouissait pourtant de cette grossesse qu'elle espérait depuis si longtemps. Enide considéra le nouveau-né comme un cadeau de Dieu.
Honora ?
Oui, ma chérie ?
Je veux qu'on l'appelle Théodore.
Pourquoi pas Théodore ? C'est le même sens.
Les meilleurs hommes du monde portent un prénom qui se termine en A.
Quand les parents découvrirent le bébé, ils changèrent brutalement d'univers. Il était repoussant.
Docteur ? Est-ce qu'il est normal ?
Il est en parfaite santé, madame.
Et pourquoi a-t-il tant de rides ?
Un peu de déshydratation. Ça va très vite s'arranger.
Il est si petit, si maigre.
Il ressemble à sa maman, madame.
Enfin, docteur, il est horrible.
Vous savez, personne n'ose le dire, mais les bébés sont presque toujours laids. Je vous assure que celui-ci me fait bonne impression. À plus tard.
Et si nous l'appelions plutôt Riquet à la houppe ?
Non. Léoda, c'est très bien.
Par bonheur, Enide et Honora avaient peu de famille et peu d'amis. Ils eurent néanmoins à endurer des visites dont la politesse ne parvint pas à masquer la consternation.
C'est le portrait de son arrière-grand-père, sur son lit de mort.
Ah, oh, il y a un petit peu... Trop de tête.
Enfin, pour un garçon, c'est pas grave.
Ouais, enfin...
Ma pauvre Enide, tu te remets ?
Oui, merci, tante Epsiba. La césarienne s'est bien passée.
Non, je veux dire, tu te remets d'avoir un gosse aussi vilain ?
Mon chéri, jure-moi que nous ne recevrons plus personne maintenant que nous sommes à la maison.
Je te le jure, mon amour.
J'espère que Déoda n'a rien capté de la médisance de tous ces gens. Tu sais, il est si gentil. Il essayait de me téter le sein et quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il m'a souri. Comme pour me dire que ça n'avait pas d'importance.
Elle est en train de perdre la raison.
Tu veux du citron ?
Conscient de décevoir, le bébé se fit d'emblée discret. On ne l'entendait jamais pleurer. Comme Enide avait du mal à cacher l'épouvante que lui inspirait son visage, il apprit très vite à sourire. Elle lui en sut gré et l'aima. Son amour fut d'autant plus intense qu'elle avait craint de ne pas l'éprouver.
Notre fils est intelligent.
Elle avait raison. L'enfanson avait cette forme supérieure d'intelligence que l'on devrait appeler le sens de l'autre. Le langage dont se servaient ses parents ne lui posait guère de problème. Quand surgissait un ensemble de sons inconnus, la signification ne tardait pas à émerger.
Maman. Maman.
Ma-ma-ma.
Oui, mon bébé. Bravo. Oui, bravo, mon bébé.
Comment ça, mes amours ?
Pa-pa-pa.
Tu parles ?
Oui. Et il m'a dit maman.
Oh, bravo, chérie. Maintenant, nous allons enfin savoir ce qui se passe dans ta tête.
Il parle bien, tu sais.
Bientôt, il dira des phrases.
Maman, cette robe te va bien.
Il a dit maman, cette robe te va bien. À 13 mois, maman, cette robe te va bien. C'est un surdoué, un précoce, un génie.
Et il a raison. Cette robe te va bien. Petit génie.
Pourquoi ?
Il a dit pourquoi ?
Il dit pourquoi ?
Il a dit pourquoi ?
Il a dit pourquoi ?
Qui es-tu, petit bonhomme ?
Déoda ?
Tu connais ton nom ?
Bien sûr, il n'était pas débile. L'enfant comprit qu'il fallait ménager son père autant que sa mère. Cette espèce s'extasiait pour un rien.
Oh, mon bébé.
Dans la tête des autres personnes, il n'y avait pas ces fulgurances et ces immensités. Alors, Enide commit un acte inédit. Elle porta Déoda devant une vaste surface éclatante dans laquelle on la voyait, tenant contre elle un jouet au visage grotesque. Constatant sa perplexité, elle saisit la main du bébé et la remua. Déoda comprit par cette simultanéité l'identité du jouet. Il se sentit oppressé. Lui, c'était ça. Il suce sa laideur sans qu'on la lui explique.
Tu pleures? Oh, c'est l'émotion du stade du miroir. C'est bien, mon chéri, pleure. Tu n'es pas si laid, tu es différent. C'est pas grave. Oh, je t'aime comme tu es, mon bébé.
Déodat n'avait connu autour de lui que le joli visage de sa mère et la douce face de son père. Pour la première fois, il découvrait qu'une figure pouvait dire l'horreur. Et, au même instant, il apprenait que c'était la sienne. Tout être qui vit un traumatisme aussi cruel est confronté à un choix obscur. Soit il décide de haïr l'univers pour lui avoir réservé une place aussi injuste, soit il décide d'être un objet de pitié pour l'humanité.
Je suis repoussant, voilà. Je n'en suis pas moins tout ce que je suis. Celui qui voit dans son cerveau des paysages captivants. Celui qui se réjouit d'exister. Celui qui connaît l'intelligence et la volupté et qui peut être interminablement joyeux de ce constat.
Sur l'autre rive de la Seine, un jeune couple nouvellement établi non loin de la gare d'Austerlitz mit au monde une petite fille. Le père s'appelait Lierre, la mère s'appelait Rose, ils nommèrent le bébé Trémière.
Vous êtes sûre de ce prénom ?
Oui. Mon mari porte un nom de plante grimpante et moi celui d'une rose. Une rose qui grimpe, c'est une rose Trémière.
Que tu es belle, petite.
Trémière avait la figure lisse et blanche comme une fleur de coton. Aucune convulsion ne secouait ses traits de poupée de porcelaine. Les gens qui vinrent effectuer leur visite de politesse à la maternité furent aussitôt sous le charme. Lierre inventait des jeux vidéo et Rose dirigeait une galerie d'art dans le nouveau quartier branché de Chevaleret. Ils avaient 25 ans, ils n'avaient pas de temps à accorder à leur bébé.
Il faut confier la petite à ma mère.
T'es sûre que c'est une bonne idée ?
C'est là que j'ai grandi.
La mère de Rose s'appelait Passerose, autre nom de la Rose Trémière. Elle habitait une ruine somptueuse à Fontainebleau. Personne ne connaissait l'âge de Passerose. Cette ignorance renforçait l'idée qu'elle venait d'une époque radicalement autre, où les papiers d'identité n'existaient pas et où les filles de 16 ans hésitaient entre les carrières de fées ou de sorcières. Dès que Trémière arriva dans l'univers de Passerose, elle adopta une attitude qui devait être la sienne pendant une vingtaine d'années, la pâmoison. Entre la grand-mère et la petite fille, ce fut l'amour fou.
Que tu es sage. J'ai toujours rêvé d'être regardée comme cela.
Je t'aime.
Qui aimes-tu ?
Je t'aime, grand-maman. C'est toi qui m'as appris que l'on pouvait aimer ainsi.
Quand Rose venait leur rendre visite, Passerose s'efforçait que tout ait l'air normal. Elle avait enseigné à Trémière un compliment à réciter par cœur quand elle serait en présence de sa mère.
Je t'aime, maman.
Tu parles, toi ?
Oui. Et tu entends ce qu'elle te dit ?
C'est bien. Et que dis-tu d'autre ?
C'est un début, ma fille. Un peu de patience.
À son âge, je parlais déjà depuis longtemps, non ?
Il ne faut pas comparer. Chaque enfant a son rythme.
D'accord. Quel est le talent particulier de ma fille ?
La contemplation.
Tu es sûre que tu ne dis pas ça pour masquer autre chose ?
Sûre. Je l'ai observée. Elle contemple avec une intensité extraordinaire.
La laideur d'un enfant désarçonne beaucoup plus que celle d'un vieillard. On eut beau retarder au maximum sa scolarisation, il fallut se résoudre à envoyer Déodat au CP à l'âge de 6 ans. Le premier jour d'école eut de quoi le dégoûter du genre humain. Déoda n'avait jamais fréquenté d'enfants de son âge. Il s'était vaguement attendu à rencontrer ses alter-ego, des êtres qu'il aurait compris, des frères. Il découvrit une bande de brutes, d'une méchanceté et d'une bêtise atterrante.
Déoda, au fond là.
Moi, je peux facilement ne pas me regarder. Eux, ils sont obligés. La première fois que je me suis vu, j'ai réagi comme eux. Ils vont peut-être s'habituer.
C'est pas difficile. Donc, vous pouvez y aller.
Qu'est-ce que c'est, déodorant?
Quelqu'un t'a dit que tu sentais mauvais?
Non, c'est un mot que j'ai entendu.
Je vais te montrer.
Tiens, voilà.
Je comprends pas à quoi ça sert.
Tu le mets sur tes aisselles pour qu'elles sentent bon. Mais t'es encore trop jeune pour en avoir besoin.
Déoda enregistra ses données et décida que ce surnom n'était ni positif ni négatif, il s'en accommoderait. Il n'était pas dupe des intentions malveillantes des autres, mais il feindrait de ne pas les remarquer. Déoda observait les élèves à la dérobée. Ceux qui le huaient en groupe, pris isolément, ne semblaient pas disposés à le détester. L'idéal consistait alors à échanger quelques paroles banales pendant la pause. Deux mois plus tard, il jouait avec les autres dans la cour sans que le groupe ait remarqué son stratagème. L'agressivité à son égard n'avait pas disparu pour autant. Un jour qu'il jouait dans la cour à la balle aux prisonniers, il reçut sur la tête une fiente d'oiseau. Il ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Les hurlements de rire des autres le renseignèrent. Il courut aux toilettes se regarder dans le miroir et vit qu'une substance blanchâtre recouvrait ses cheveux. À sa stupéfaction, une joie immense s'empara de lui.
Nous étions une centaine et c'est tombé sur moi. L'oiseau m'a choisi.
Un monde nouveau s'ouvrait à lui, celui des oiseaux. Lui, que les humains commençaient à décourager, se réjouissait de recevoir une invitation si claire à lever les yeux vers les véritables habitants du ciel. De retour dans la cour, l'enfant scruta les branches des marronniers. Il vit les passagers ailés de Paris, Piaf, Pigeon et d'autres dont les noms lui étaient encore inconnus. Il se jura d'apprendre à identifier chacun.
Avons-nous à la maison un livre sur les oiseaux?
Non, mais dans le dictionnaire, tu verras sûrement des oiseaux.
La planche « Oiseau » de l'antique Larousse illustré emplit les yeux de Déoda de sa richesse. Il resta couché sur le ventre pendant des heures à la contempler, en proie à un émerveillement absolu. C'était une œuvre d'art, une profusion de couleurs et de grâces. Auparavant, Enide devait venir réveiller son fils à 7 heures du matin afin qu'il se prépare pour l'école. Désormais, elle trouvait l'enfant déjà éveillé, couché sur le tapis du salon devant le dictionnaire ouvert.
Depuis combien de temps es-tu levé?
Je ne sais pas.
Je préférerais que tu dormes, mon chéri. T'en as besoin.
J'ai encore plus besoin des oiseaux.
Tu les connais tous maintenant.
Tu aimes les oiseaux, maman?
Les oiseaux sont magnifiques, mais ils sont pas très attachants.
Ce que tu dis est vrai. Et c'est aussi pour ça que je les aime si fort.
Enide regarda son fils avec l'admiration perplexe qu'il ne cessait de susciter en elle. Un enfant de 7 ans qui tenait de tels propos, c'était quelque chose. On lui avait fait passer les fameux tests. Son quotient intellectuel de 180 laissait présager tout ce que l'on voulait. Pourtant, Enide savait que son fils valait bien mieux qu'un surdoué. C'était un génie. Il créait ses propres lois, indifférent au paradigme convenu de l'intelligence.
Il n'existe pas de fenêtre d'où l'on n'aperçoit pas au moins un oiseau. De tous les animaux sauvages, l'oiseau est le seul que l'on côtoie au quotidien chaque jour de l'année. Les uniques lieux où il est rare de les voir sont la pleine mer et les déserts. Ils coïncident avec les endroits où l'on croise peu d'hommes. Cela suggère que l'oiseau est pour ainsi dire le frère noble de l'homme. Sa présence perpétuelle rappelle à l'espèce humaine ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait cédé à la curieuse séduction de la pesanteur.
Il tardait à l'enfant, non pas tant de voler de ses propres ailes que d'aller observer ailleurs les espèces innombrables du règne aviaire. À l'école, la passion ornithologique du garçon n'eut pas d'influence sur sa réussite scolaire, mais le rendit à sa solitude originelle.
Votre fils, qui avait beaucoup d'amis au CP, n'adresse plus la parole à ses anciens camarades. Vous êtes au courant ?
Assez pour savoir que c'est son choix.
Déoda est supérieurement intelligent, et il le sait. Il ne faudrait pas l'encourager dans cet isolement méprisant.
Non, ce n'est pas du mépris. Notre enfant ne pense qu'aux oiseaux.
Il est très sage, il regarde par la fenêtre.
Vous comptez faire de lui un ornithologue ?
Nous comptons le laisser décider de sa vie.
C'est dommage quand même. Un tel cerveau pourrait trouver meilleur emploi.
Au revoir, monsieur.
Monsieur.
Quel pauvre type, celui-là !
Eh, tu as raison, ma chérie. Bon, nous ne raconterons rien de cet échange au petit. Hein.
Non. Allez, on y va.
On lui prend la goutte.
La vérité était que Déoda avait d'abord voulu se prouver que son intégration parmi les enfants était possible. Mais dès qu'il n'en avait plus douté et qu'il avait pu constater le peu de valeur d'une camaraderie, il s'était détourné de toute vie sociale. La contemplation du moindre moineau de la cour lui apportait tellement plus que la fréquentation de ceux qui, après l'avoir appelé Déodorant, ne le nommaient plus autrement que l'enfianté.
Les gens ne sont pas indifférents à l'extrême beauté. Ils la détestent très consciemment. Dès le premier jour, Trémière devint la martyre de l'école. La maîtresse et les élèves avaient trouvé le meilleur prétexte à leur exécration. L'enfant fut décrété d'une stupidité absolue. Pour son malheur, sa propre mère en pensait autant.
Lierre, je suis inquiète. À l'âge de Trémière, et même avant, j'explorais déjà. La maison de ma mère est un tel mystère. Elle invite à fouiller, à monter au grenier, ou au moins à ouvrir les portes. Notre fille reste assise par terre, elle observe autour d'elle, sans bouger, sans parler.
Nous en ferons une moniale zen.
Au lieu de plaisanter, reconnais qu'elle est spéciale.
Que voudrais-tu que je te dise ? Quelle est une demeurée ?
Le mot est trop fort. Non. Je trouve qu'elle manque de curiosité.
N'est-ce pas un vilain défaut ? Tant mieux si elle en manque.
2 ans plus tard, son entrée au CP confirma les craintes de Rose. Non que Trémière se plaignît, elle ne se plaignait jamais, mais parce que la maîtresse la convoqua.
Ça ne va pas, madame.
Ma fille n'apprend rien, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas le problème, j'ai de plus mauvais élèves. Est-ce qu'elle vous raconte ce qu'elle endure ?
Non.
Tout à l'heure, après la récréation, plus de Trémière. Je demande aux enfants où elle est, ils éclatent de rire. Je fonce dans la cour et je trouve la petite assise par terre. Qu'est-ce que tu fais là ? Viens en classe.
Je ne peux pas.
Pourquoi ?
Maïté a tracé un trait de craie autour de moi. Elle m'a défendu de sortir du cercle.
Moi, je t'ordonne d'en sortir.
Elle m'a dit que si j'en sortais, ma mère mourrait.
Allez, viens, Trémière.
Non.
Viens. J'ai dû la traîner hors du cercle. Parlez-lui. Dites-lui que vous êtes bien en vie.
J'espère que vous allez aussi appeler les parents de Maïté.
Bien sûr, madame. Mais il n'y a pas que Maïté. Tous les enfants s'en prennent à Trémière. Apprenez-lui à se défendre.
Comment faire ?
Dites-lui qu'elle ne doit pas accepter ses mauvais traitements.
Doit-elle donner des coups ?
Bien sûr que non. Elle doit parler. C'est-à-dire qu'elle doit faire comme vous quand vous vous défendez et quand vous la défendez. Car vous la défendez quand on l'attaque, n'est-ce pas ?
Évidemment.
Au revoir, madame.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Est-elle bête aussi de gober cette histoire du cercle de craie ?
Je peux la comprendre. Dans le Caucase, on ne plaisante pas avec les cercles de craie.
Ne me dis pas que tu farcis la tête de ma fille avec tes croyances stupides.
Je m'en garde. Je pense seulement que Trémière a un grand sens de la magie.
Tu ne crois pas qu'elle est un peu sotte ?
Pas du tout. C'est une enfant d'une intelligence supérieure.
À quoi vois-tu ça, maman ?
Elle ne dit jamais de bêtises.
Elle ne dit jamais rien.
Oh, ce n'est pas vrai. Elle parle peu, mais ce qu'elle dit est extraordinaire.
Ses résultats scolaires n'ont rien d'extraordinaire.
Depuis quand juge-t-on l'intelligence d'un enfant sur de pareils détails ?
Écoute, maman, il paraît que Trémière est la martyre de sa classe. Est-ce qu'elle t'en parle ?
Jamais.
Essaie d'en savoir plus, d'accord ?
Je te le promets. À très vite.
Au revoir, maman.
Ça te plaît, mon petit tête à l'orange ?
Oui, délicieux.
Ma chérie, est-ce que les enfants sont méchants avec toi ?
Non.
Raconte-moi ce qui se passe pendant les récréations.
Je joue.
À quel jeu ?
À la piscine.
Il y a une piscine dans la cour ?
La piscine, c'est moi.
Je ne comprends pas.
Les autres montent sur le mur, comme si c'était le plongeoir. Et je suis couchée par terre en dessous. Ils sautent.
Je ne veux pas en savoir davantage. Pourquoi ne jouez-vous pas à un jeu différent ?
On joue aussi au football ?
Laisse-moi deviner. Tu es le ballon ?
Non, je suis le but.
Gardienne de but ?
Non, but.
Ma chérie, c'est épouvantable. Tu ne dois pas accepter qu'on te fasse du mal.
Ça ne fait pas tellement mal. Et c'est mieux qu'avant. Avant, personne ne voulait jouer avec moi.
Je préférerais encore que tu ne joues avec personne. Promets-moi que désormais tu refuseras ces jeux horribles.
D'accord.
Tu n'as pas de bleu, malgré les coups que tu as reçus ?
Non.
Le lendemain, quand les élèves tentèrent de l'entraîner dans l'un de leurs jeux sadiques, elle refusa poliment. Ils voulurent alors la tabasser. Elle les regarda dans les yeux, très calme, et dit que c'était inutile. Elle ne marquait pas. Ils furent tellement déconcertés qu'ils passèrent à autre chose. Dorénavant, Trémière fut une enfant solitaire. L'unique chose qui lui importait était de retrouver sa grand-mère.
Ça ne te déplaît pas trop de ne pas avoir d'amis ?
Je n'aime pas beaucoup l'école, de toute façon.
Tu ne t'ennuies pas ?
Non. Je remarque toujours quelque chose de nouveau.
Tu es extraordinaire.
Je vais te montrer ce que je ne montre à personne. Viens.
Suis-moi.
Il ne faut pas que deux bijoux se touchent. Les pierres pourraient se rayer. Chaque bijou est une âme délicate qui ne supporte pas le contact de ses congénères. Donne-moi la main. Ferme les yeux. Même si tu étais aveugle, tu saurais combien c'est beau, non ? Ouvre les yeux à présent. Voici l'étoile de Saint-Marcande. Un bracelet qui date de 1749. Je l'aime beaucoup. Sens le poids de ce bijou dans ta paume. N'est-ce pas que cela impressionne ?
Oui.
Va fermer les rideaux. Regarde. Il paraît que les trésors japonais sont conçus pour être admirés dans l'ombre. Je ne suis pas japonaise, mais je comprends ce principe. Cet éclat ne peut pas être réfléchi.
Nous sommes dans le noir. Donc, l'or et les pierres précieuses émettent de la lumière.
Tu dis des choses sublimes, grand-maman.
Sais-tu pourquoi je n'ai jamais parlé de ces bijoux à ta mère?
Non.
Bah parce que, comme n'importe qui d'autre, elle m'aurait posé des questions. Elle m'aurait interrogé sur la provenance de mon trésor, sur sa valeur. Et surtout, elle m'aurait sommé de le déposer dans un coffre à la banque. Moi, tu ne poses jamais de questions. Je ne dis pas que c'est un mal d'en poser. Les questions peuvent révéler une intelligence. Toi, tu as une manière supérieurement intelligente de ne pas en poser.
Je sais, tu ne parleras de ce trésor à personne. Je porte ces bijoux chaque nuit pour dormir. C'est une vérité peu connue. Les bijoux, pour rester magnifiques, ont besoin d'être portés très souvent. Et quand j'ai dit porter, cela signifie aimer. Un bijou porté sans amour peut se ternir d'un coup.
J'aimerais tellement te voir avec tes bijoux.
D'accord. Ce soir, avant de me coucher, je t'appellerai.
Le soir, à la lueur des bougies, Trémière découvrit la vieille dame assise devant sa coiffeuse, revêtue d'une robe de nuit qui ressemblait à une tenue de mariée. Passereau se tourna vers elle. Trémière vit qu'elle était entièrement recouverte de bijoux.
On croirait que tu as peur.
Grand-maman, couche-toi sur le lit, s'il te plaît.
Je dois avoir l'air d'une momie, non? Ou d'une gisante?
Oui. Tu ressembles à quelque chose d'inconnu. Est-ce que je peux toucher?
Oui.
Tu es tellement belle, grand-maman. Mais comment fais-tu pour dormir avec tout ça?
Il faut avoir un sommeil immobile. Question d'habitude. À présent, je ne peux pas dormir sans mes bijoux. Ils me rechargent. Tu ne diras rien à ta mère, n'est-ce pas?
Je te le promets.
À l'âge de 15 ans, Déoda trouva le moyen d'enlaidir. Il grandit prodigieusement, ce qui donna à sa monstruosité plus de terrain pour s'épanouir. Il se couvrit d'acné. Son dos se voûta de manière si exagérée que sa mère le conduisit chez un médecin.
Votre fils a une cyphose. Il est en train de devenir bossu.
Mais ça n'existe plus aujourd'hui.
Ça n'existe plus parce que ça se soigne. Seulement, jeune homme, il va falloir porter un corset pendant plusieurs années. Ainsi, nous pourrons annuler cette gibbosité.
J'aime mieux la garder.
Ne vous inquiétez pas pour ce corset, vous vous habituerez très vite.
Là n'est pas la question. Il semblerait que la nature ait décidé de me parer de toutes les horreurs. Son projet me fascine, je ne veux pas le contrarier.
Je préfère ne pas commenter. Jeune homme. Être bossu, c'est une maladie abominablement douloureuse. Avec les années, cela empêche de respirer, on en meurt. Donc vous porterez ce corset.
Au revoir, docteur.
Au revoir, madame.
Au revoir, docteur.
Au revoir, jeune homme.
Déoda, qui haïssait la souffrance, ne protesta plus. Le premier jour, le corset lui fit l'effet d'une prison qui le maintenait si droit que c'en était épuisant. Le bon côté de l'affaire, c'était qu'un dérangement si absolu l'empêchait de se préoccuper de l'hilarité de sa classe.
Ça va? Ça te suffisait pas d'être le plus moche? Fallait aussi que tu sois le plus ridicule?
Lâche-moi.
À quoi tu joues, mec? C'est une camisole de force.
En effet.
Mais pourquoi tu portes ça?
La police m'a diagnostiqué hyperviolent. C'est un système de surveillance relié à une cellule de sécurité. En clair, si je cède à ma pulsion de vous défoncer la gueule, les flics arrivent le plus vite possible. Peut-être pas assez vite, hélas, pour vous sauver.
Vas-y, viens, viens, on bouge.
Dans le doute, les adolescents ne tentèrent pas de le pousser à bout. Déoda, lui, ne pensait qu'au soir. Au moment de se coucher, il avait le droit de retirer le corset qui allait de sa taille à son cou. Au bout d'une semaine, Déoda s'aperçut que cela l'obsédait moins. Au lieu de passer son temps à maudire son corset, il se surprit à rêvasser comme auparavant en regardant les moineaux par la fenêtre de la classe. Quelques jours plus tard, en plein cours, une boulette de papier atterrit sur son bureau.
Théo, j'aimerais mieux te connaître. Rendez-vous à 17h au rat qui fume. Sam.
Samantha était la plus jolie fille du lycée. Il s'agissait forcément d'une plaisanterie de mauvais goût. Déoda jeta le billet et rentra chez lui comme d'habitude. Le lendemain, Samantha l'attendait dans la cour, les yeux rougis.
Pourquoi tu n'es pas venu hier ?
Pourquoi je serais venu ?
Parce que je te l'avais demandé.
Je n'apprécie pas qu'on se moque de moi.
Je ne me moque pas de toi.
Que me veux-tu ?
Je l'ai écrit. J'aimerais mieux te connaître.
Depuis combien de temps sommes-nous dans la même classe ?
C'est la 4e année.
Pourquoi cette soudaine curiosité à mon égard ?
Quand les autres crétins t'ont agressé, je t'ai trouvé formidable.
Ce que je leur ai dit était un mensonge, j'espère que tu le sais.
Bien sûr. J'aime bien ton corset. On croirait que tu portes une armure.
C'est pour ça que tu veux mieux me connaître ?
Non. C'est parce que je suis amoureuse de toi.
Pourquoi es-tu tombée amoureuse du garçon le plus laid du lycée ?
Je ne te vois pas comme ça. Pour moi, tu es le plus intelligent. Tous les autres sont des gamins.
J'ai le même âge qu'eux.
Tu n'as rien à voir avec eux. T'as la classe.
J'ai jamais embrassé personne.
Je t'apprendrai.
Le lendemain, à sa stupéfaction, Enid vit son fils main dans la main avec une jeune fille ravissante qui semblait très amoureuse.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour
monsieur.
Mademoiselle.
Voulez-vous un chocolat chaud ?
Non, Samantha et moi nous allons dans ma chambre. Nous avons besoin d'intimité.
Sacré gamin.
T'étais comme ça, toi, à son âge ?
Pas plus que toi, mon Enid.
La liaison dura 2 mois. Très vite, Samantha devint ombrageuse. Il y avait toujours quelque chose qui ne lui allait pas.
Tu pourrais facilement te passer de moi. Est-ce que je te manque ? Je ne le dis jamais. Tu n'as pas l'air amoureux. Tu n'écris pas de poèmes. Pourquoi ne recherches-tu plus ma compagnie ?
Parce que tu te plains sans arrêt.
C'est fini entre nous.
C'est ma première rupture.
Le lendemain, Serafita, une jeune fille délicieuse, vint lui faire les yeux doux. Elle était extraordinairement différente de Samantha. Le surlendemain, le garçon présenta Serafita à Enid, puis l'emmena dans sa chambre. Leur histoire ne dura guère. Ensuite, il y eut Soraya, Sultana, Sylvana. Chacune connut sa chambre. Déoda se demandait pourquoi ses amours ne duraient pas plus longtemps. Le cycle des plaintes se reproduisait avec chacune. Au début, l'incriminé se défendait, ce qui ne faisait qu'aggraver son cas. Il comprit sans tarder qu'il valait mieux se taire. Le résultat était tout aussi mauvais, mais coûtait moins d'efforts.
Une belle adolescente suscite encore beaucoup plus de haine qu'une belle enfant. À 15 ans, Trémière était de loin la plus belle fille du lycée. Son teint de lait nacré lui valut le surnom de Trémière la Crémière. Bientôt, on ne l'appela plus que Crémière. À dire vrai, on ne l'appelait pas, on la huait. De son immense regard clair, on disait qu'il était vide. S'il n'avait échappé à personne qu'elle était insoutenablement belle, ce n'était qu'un argument de plus pour lui pourrir la vie. 2 mois après la rentrée, débarqua un nouveau qui eut le talent de plaire, Tristan. La classe de seconde l'adopta à l'unanimité. On le surprit un jour en train de converser, ou plutôt de monologuer, avec Trémière, qui l'écoutait les yeux baissés.
Hé, perds pas ton temps avec cette conne.
Quelle preuve avez-vous de sa connerie ?
Mais on a que ça. Attends, on la connaît depuis toujours, elle est con comme un balai.
Bah, pourquoi la détestez-vous ?
On la déteste pas.
Et c'est comment quand vous détestez quelqu'un ?
Ah, écoute, moi je te préviens, c'est tout, ok ? Toi, si ça te dérange pas qu'elle te regarde toute la journée, là, avec ses yeux de vache, bah, tu fais comme tu veux. Hein.
Tristan, qui était un adolescent ordinaire, fut un peu ébranlé par cette exécration générale. Mais la beauté de Trémière ne laissait pas de l'impressionner. En lui donnant le premier baiser, il se crut sincèrement amoureux pendant quelques instants d'éternité et prononça les deux ou trois paroles irréparables qu'il est tentant de dire à 15 ans lorsque la beauté s'offre à soi. Ce soir-là, la jeune fille rentra chez elle dans un état second. Tout à sa première transe amoureuse, elle ne ferma pas l'œil une seconde. Au matin, elle se leva sans fatigue. Elle courut au lycée où Tristan était arrivé en avance. Le sort voulut que deux garçons la devancent de peu.
Hé, Tristan ! Alors, vas-y, raconte. Ça ne vous regarde pas. Ça va, te fais pas prier. T'as qu'une envie, c'est nous le dire, alors raconte.
Que voulez-vous savoir ?
On l'embrasse comment, la Crémière ?
Comme une qui se laisse embrasser pour la première fois.
C'était son premier baiser ?
Sans doute, oui.
Alors, c'est comment de baiser une vierge ?
C'est spécial.
Elle est bonne ?
Pas vraiment.
Caché derrière la porte entrouverte de la salle de classe, Trémière se glaça. 10 minutes plus tard, Tristan la rejoignit. Elle détourna la tête et refusa de le regarder. Il essaya de l'étreindre, elle le repoussa avec dégoût et ne répondit à aucune de ses questions. À la voir à ce point prostrée et secouée par ce tremblement convulsif, Tristan décida qu'elle avait perdu la raison. Il n'y eut désormais plus de limite à ce que l'on osa affirmer sur son compte. Quand les cours prirent fin, Trémière rassembla ses dernières forces pour rentrer chez elle. Passerose vit passer un zombie qui monta aussitôt dans sa chambre.
Le chagrin d'amour constitue l'épreuve initiatique absolue et il n'épargne personne. Si profonde soit ta souffrance, je te garantis qu'elle finira.
Je vais mourir.
Tu ne mourras pas.
Grand-maman, le froid s'installe en moi. Je sens que je meurs.
Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas.
Au bout d'une heure, Trémière commença enfin à frissonner et la grand-mère sut qu'elle vivrait.
Ne meurs pas.
Par précaution, Passerose passa la nuit entière avec elle. L'amour qui les unissait était si fort que le sommeil ne dérangea pas leur étreinte.
Je n'aurais jamais cru que je survivrais.
Dieu chérit son bien-aimé en le faisant dormir.
Alors c'est toi, Dieu, et c'est moi la bien-aimée.
Ne dois-tu pas aller au lycée ?
C'est samedi.
Ma chérie, j'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux.
C'est comme si j'étais morte cette nuit et ressuscitée sans ma peine. Grand-maman, je pense que tu es une chamane.
Je vais m'habiller. Un petit déjeuner au lit, ça t'irait ?
On m'a volé mes bijoux.
La température de la vieille femme chuta. Trémière voulut sauver sa grand-mère comme celle-ci l'avait sauvée la nuit précédente. Elle se coucha à ses côtés et l'étreignit en lui répétant « Ne meurs pas, ne meurs pas,
ne meurs pas. »
Mais on ne peut pas être chamane à 15 ans.
Sans mes bijoux, à quoi bon ?
Et moi, grand-maman, j'ai besoin de toi.
Tu vivras, mon enfant. Tu en as la force.
Passerose mourut à 7 secondes. La vie de Trémière changea. Elle vint habiter avec ses parents l'appartement près de la gare d'Austerlitz. Dans son nouveau lycée, aucune réputation ne l'avait précédée. Elle fut une élève taciturne, on ne lui connut pas de comportement particulier, à l'exception du jour où, étudiant Baudelaire, Le professeur lut en classe le sonnet « Les bijoux ». Quand il prononça « Et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière », Trémière éclata en sanglots.
Après le baccalauréat, Déoda fit des études de biologie à la Sorbonne et puis se spécialisa en ornithologie. Il consacra sa thèse de doctorat à la huppe faciée. Les professeurs, intrigués par ce jeune homme d'une laideur à ce point remarquable, le surnommaient Riquet à la huppe. Ce surnom lui allait d'autant mieux que, comme le personnage de Perrault, il plaisait à tous, et particulièrement aux femmes.
Laissez-vous un peu. Le mal est stabilisé. Vous pouvez désormais vous passer du corset.
Je suis guéri.
On ne guérit pas d'une cyphose, mais votre adolescence est terminée sans que le mal empire. C'est un succès.
Hein?
Oh, ne tirez pas cette tête. Vous allez pouvoir vivre sans corset. N'est-ce pas une bonne nouvelle?
Je sens arriver une clause qui me plaira moins.
Vous allez devoir faire 5 heures de kinésithérapie par semaine.
Nous y voilà.
Il faut vous muscler le dos.
En sortant du cabinet, Déoda prit rendez-vous chez le kiné. Le docteur Lyde était une Hollandaise d'une trentaine d'années, au beau visage sérieux, juché sur un long corps de sportif.
Je vais vous apprendre des exercices. Faites comme moi.
La comparaison entre leurs deux corps était humiliante pour lui. Il en eût conçu de la honte s'il n'était pas tombé presque aussitôt amoureux de l'imperturbable kinésithérapeute.
C'est très bien.
Vous ne devriez pas vous appeler Led.
On prononce Lyde.
Lyde.
Ok. Je vous propose un rendez-vous chaque jour de la semaine, à 17h, pendant une heure.
Ça ne suffira pas.
En effet. C'est pourquoi vous ferez 20 minutes d'exercice chez vous chaque jour. Ce que je vous ai enseigné en début de séance. À demain.
Déoda n'avait jamais dû conquérir l'amour d'une femme. Pour la première fois de sa vie, la proie devait endosser le rôle du prédateur.
Cela ne vous fatigue pas d'exécuter toujours les mêmes exercices avec moi?
C'est mon métier. Non, ça ne me fatigue pas.
Je suis ornithologue.
C'est un beau métier. Vous n'avez pas fait vos exercices ce week-end.
En effet.
Il ne faut plus oublier. Vous êtes en train de vous construire une musculature dont dépend la suite de votre vie. 2 jours de relâche, c'est beaucoup de temps perdu.
Je vous aime.
Je vous demande de prendre mes consignes au sérieux.
Vous allez me pousser au suicide.
N'y pensez pas.
Qu'est-ce que cela peut vous faire?
Vous êtes mon patient.
Déoda profita de cette brèche dans la carapace de la kinésithérapeute pour se redresser, l'attraper et l'embrasser. Elle ne se débattit pas, ni lors du baiser, ni lors de ce qui suivit. Il la trouva même plutôt enthousiaste.
Vous acceptez cela de tous vos patients?
C'est la première fois.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Vous ne m'avez pas laissé le temps de me poser la question.
Ce devint une habitude. 5 fois par semaine, au terme de la séance, à la place du massage, il faisait l'amour. Comme il était le dernier patient de la journée, cela ne dérangeait pas son planning. Pour autant, il ne fallait pas s'éterniser. Saskia voulait rejoindre son mari.
Vous l'aimez?
Ça ne vous regarde pas.
Et moi, vous m'aimez?
Ça ne vous regarde pas.
Si, un peu quand même. Vous ennuyez-vous avec moi?
Non, jamais.
Et vous ennuyez-vous de moi quand je ne suis pas là? Pourquoi ne m'a-t-on pas opéré? Il paraît que l'on opère les enfants bossus aujourd'hui.
Vous aviez 15 ans quand vous avez été diagnostiqué. Il était trop tard pour vous opérer. Et puis, votre cyphose était légère. Un traitement léger a suffi.
8 ans de corset, et puis vous? Je Je n'appelle pas cela un traitement léger.
Et qu'est-ce qui est pire? Le corset au moins?
Vous. Le corset, je pouvais l'enlever la nuit. Vous, c'est la nuit que je vous sens le plus.
Si vous me sentez, ce n'est pas si mal.
Je vous sens, cela signifie que je sens le manque de vous.
C'est bon le manque, quand on sait qu'il sera comblé.
Il ne l'est jamais.
C'est la dernière séance. Il faudra continuer de faire vos 20 minutes d'exercice par jour.
Je ne vous verrai plus.
La rééducation est terminée.
Mais je ne suis pas guérie. Je ne peux pas vivre sans vous.
Si vous deviez négliger vos exercices, retenez-en un seul, le plus simple. Celui où, les paumes à plat sur un mur en face de vous, vous vous penchez de manière à avoir le dos droit. Ce mouvement tout bête peut vous sauver.
Déoda pleura. Sans jamais lui parler d'amour, Saskia lui avait infiniment plus apporté que toutes les femmes qu'il avait connues auparavant. Un beau matin, il contracta d'épouvantables douleurs dorsales. Tandis qu'il souffrait seul devant sa tasse de café, il se rappela les dernières paroles de Saskia. Il se leva, bras à ongles droits, et pivota le bassin de manière à avoir le dos droit. Il répéta le mouvement un grand nombre de fois. Au bout de 5 minutes, son mal avait disparu. Il lui était désormais loisible de penser à celle qu'il aimait sans éprouver d'amertume envers elle.
Première obtint le baccalauréat sans mention et décida de commencer aussitôt à travailler. Parmi les clients de la galerie d'art maternel figurait le PDG de Trébuchet, le célèbre joaillier de la place Vendôme. Première avait une peau d'un éclat particulier, cette nacre appelée l'or et l'argent. On l'engagea et la campagne d'affichage fit grand bruit. On salua combien, par la seule grâce d'un visage inconnu, on mettait en valeur ses œuvres d'art.
Vous portez les bijoux comme personne. Comment l'expliquez-vous?
Je les aime d'amour.
Refusez-vous de poser avec certaines parures?
Bien sûr. Jamais par caprice, mais parce que certaines ne me vont pas. Parce que je ne peux pas toutes les aimer. Merci.
Merci à vous.
De nombreux prétendants abordèrent Trémière. Elle n'eut pas la vanité de les envoyer tous paître. Elle vécut quelques histoires plus ou moins intéressantes et remarqua sans tarder que ne pas être amoureuse rendait ses liaisons ennuyeuses. Les hommes qu'elle quittait disaient qu'elle était froide comme un bijou. Les livres que l'on se sent appelé à lire sans savoir pourquoi étant souvent l'expression du destin, Trémière tomba dans une librairie au rayon enfant sur Riquet à la houppe de Perrault et sut qu'il lui fallait le lire.
Cette belle, c'est moi. Ce n'est pas tant qu'elle est sotte, c'est qu'elle n'a pas d'esprit. Dans la littérature facétieuse, donner de l'esprit signifie s'initier à l'amour physique. Si j'avais de l'esprit, peut-être serais-je capable de trouver du plaisir à la compagnie des hommes. Mais s'il me faut pour cela rencontrer un Riquet à la houppe, sous prétexte que je suis sans esprit, je devrais me contraindre à accepter l'amour d'un monstre.
Traumatisée par son interprétation du conte, Trémière se mit à observer les hommes laids avec méfiance. Il y eut des âmes basses pour s'apercevoir de ce manège. C'est ainsi que l'animateur d'un show télévisé à succès eut l'idée d'inviter sur son plateau l'égérie du joaillier pour la confronter à ce brillant ornithologue au physique repoussant. Les invités devaient arriver à 14h30. Le plus souvent, l'enregistrement ne commençait jamais avant 17h30. Les 3 heures de battement n'avaient d'autre fonction que de fragiliser l'invité et d'augmenter les probabilités qu'il craque sur le plateau. Une célébrité qui pétait les plombs lors d'un faux direct, c'était pain béni pour l'audience. Quand Trémière comprit que son isolement était inéluctable, elle recourut à une technique qu'elle avait élaborée lors de sa petite enfance et que, ô prodige, elle n'avait pas perdue en grandissant. Elle regarda.
Celui qui vécut très mal son isolement, ce fut Déodat.
Excusez-moi, j'ai besoin d'une loge avec une fenêtre.
Aucune loge ne comporte de fenêtre.
Déodat s'effondra sur le canapé. Dans les situations de crise, il se métamorphosait en étourneau et se cognait le front à tous les murs de la pièce comme si quelqu'un jouait du tam-tam à côté de lui. Préférant la révolte à la folie, il jaillit hors de sa loge et courut dans les couloirs à la recherche d'une fenêtre. Enfin, il parvint à une baie vitrée et s'abîma dans la contemplation du ciel.
Veuillez retourner dans votre loge, monsieur.
À vous, fichez-moi la paix!
Déodat finit par apercevoir un martinet qui tournoyait haut dans le ciel. Aucun spectacle ne le délivrait à ce point. À force de le regarder, Déodat devenait l'oiseau en vol. Il se laissa planer le temps qu'il fallut. Quand il sentit que la crise était passée, il quitta le corps du martinet et fila rejoindre sa loge. Voyant que le surveillant était sur ses talons,
monsieur,
il le sema et entra dans une cellule, monsieur, qui était la copie conforme de la sienne.
L'irruption d'un personnage qui claqua la porte derrière lui arracha Trémière à sa contemplation méditative. La première chose qu'elle sentit fut que cette créature venait de planer dans le ciel.
Je ne savais pas qu'un paon pouvait voler.
Les paons sont des oiseaux étranges. La roue, par exemple. C'est leur numéro de charme et leur parade de guerre. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Dans l'espèce humaine aussi, il est régulier que l'atout de séduction coïncide avec le dispositif de défense. Mais même en l'absence de femelle, de rivale ou de menace, on peut surprendre le paon à exhiber son éventail sans qu'on puisse en expliquer la raison.
Peut-être pour le simple plaisir de sa beauté.
Sans qu'aucun miroir ne lui en renvoie l'image.
Parfois, c'est précisément l'absence de tout reflet qui permet de se sentir belle.
Comment avez-vous compris que j'étais un paon ?
Quand vous êtes entrée, j'ai d'abord vu que vous étiez un oiseau. Vous veniez de voler dans les airs. Je ne peux pas vous en dire plus. Et puis, j'ai vu votre propension à l'excès. Pardonnez-moi de vous parler sans détour. C'est comme si vous mettiez votre point d'honneur à déployer toute la laideur du monde. Vous y mettez autant de panache que le paon a déployé ses ocelles. Êtes-vous l'ornithologue ?
Oui.
Je dois vous prévenir que je n'ai pas d'esprit.
Les mots par lesquels vous m'avez accueilli ne le signalaient pas. Quant à moi, il me semble superflu de vous rappeler ma triste figure.
Votre voix est très belle. Pour vous, faire la roue consiste à parler.
Avez-vous lu Riquet à la houppe ?
Arrêtez. Je vous en prie. Je me sens toute nue.
Ce n'est pas le seul conte de Perrault que vous m'évoquez. Quel est encore le titre de celui où une jeune fille, pour avoir donné de l'eau à une vieille pauvresse, voit chacune de ses paroles se transformer en pierre précieuse?
Quelle heure est-il?
17h. Vous avez raison, on se moque de nous. Partons.
Trémière et Déodat galopèrent à toutes jambes jusqu'au premier taxi venu. Bien évidemment, il y eut un scandale. La presse à sensation s'en empara, les amoureux n'en surent rien. Le jour de leur rencontre, ils avaient demandé au taxi de les conduire à la première gare où ils sautèrent dans le premier train qui allait à Nantes. Ils y prirent une chambre dont la fenêtre était un vitrail et s'aimèrent sous les croisées d'ogives.
Une semaine plus tard, Déodat et Trémière allumèrent ensemble leur portable. Leurs messageries respectives débordaient d'insultes. Ils conservèrent soigneusement les messages les plus injurieux de l'animateur et les firent écouter à leurs collaborateurs. L'attaché de presse de la joaillerie Trébuchet fit diffuser un enregistrement des grossièretés du présentateur. L'opinion se retourna contre lui. On félicita les amoureux pour leur défection.
De retour à Paris, ils achetèrent un grand appartement au troisième étage d'un vieil immeuble de la rue des Tournelles.
Lors d'un entretien, Trémière avoua sans embâge que c'était elle qui pourvoyait aux besoins du couple.
Il y eut des gens pour s'en formaliser.
Autrement dit, madame, c'est vous qui portez la culotte ?
Le mannequinat rapporte davantage que l'ornithologie.
Mon physique me prédisposait à devenir un homme entretenu.
Trémière, qui ne voyait plus la laideur du jeune homme depuis qu'elle l'aimait, ne comprit pas l'humour du propos.
C'était Riquet à la houppe, d'Amélie Nothomb. Adaptation, Julie Guichard. Avec Gabriel Dufay, Émeline Bayard, Maxime Dambrun, Cécile Gérard, Julien Cibre, Françoise Lebrun, Clotilde Morgiève, Mélissa Barbeau, Guillaume Marquet, Stéphanie Schwarzbrot, Myrtille Bordier, Pauline Ziadé, Manika Ossir, Jean-Jacques Vanier, Sylvie Huguel, Donatien Guillot, Blandine Baudrillard, Laure Siriex, Laurent Cléry, Philippe Bautier, François Tavares, Ralph Rousseau, Marie Bouvier, Brice Hilleret. Et les voix de Ali Souris, Mathilde Charbonneau, Rose Martine, Caroline Borderieux, Clémentine Loubrieux, Éléonore Gérard, Charlotte Hennequin, Gabriel Giraudot, Salomé Soulabaille, Zélie Convert, Léon Chevalier, Swann Levaché, Léon Giorgini, Stéphane Giraudot, Lénie Vanier, Clément Laguarde, Charlotte Dessert, Héloïse Manessier, Sofiane Giraudot, Charlotte Durand, Célestin Loubrieux, Régis Kermorvan, Antonin Chalon, Thomas Agols, Samuel Charles, Théo Combi-Lemaître. Bruitage, Sophie Bissantz, assistée de Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Manon Moussin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Antoine Villose de la discothèque pour les recherches musicales. Riquet à la houppe d'Amélie Nothomb est publié aux éditions Albin Michel.